Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
En ce 3 mai, nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour, Monseigneur Ayé.
Bonjour.
Bonjour, Olivier Drapé.
Bonjour, Alexandre.
Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence et de Radio La Pourdie Iratia. Alors, Monseigneur, ça y est, nous y sommes. Nous commençons le déconfinement.
Oui, on commence le déconfinement dans le sens où il n'y a plus d'autorisation de déplacement à présenter au-delà des 10 km. Mais on reste sous le couvre-feu à 19h. Et donc, on n'est quand même pas complètement sorti de cette spirale infernale.
Au niveau du culte, qu'est-ce qui ça change pas trop, ça change pas grand-chose.
Ça change pas grand-chose puisqu'on est toujours en couvre-feu à 19h, donc on est obligé d'avancer les messes du soir toujours, hein, donc à l'après-midi.
Diocèse en fête est annulé.
Diocèse en fête est annulé parce que de fait, je pense qu'à partir du 19 mai, on a un confinement, on a un couvre-feu à repousser à 21h, mais il est bien évident que pour préparer un événement comme celui-ci, qui n'est pas encore tout à fait dans les règles, des rassemblements dans la rue, donc il était quand même préférable d'anticiper et donc de l'annuler une fois de plus.
Monseigneur Ayé, le président de la République, dans ses annonces il y a quelques jours, n'a pas explicitement parlé de pass sanitaire, mais il y a eu quelques allusions tout de même qu'il a pu faire, lui et d'autres membres du gouvernement, sur peut-être une sorte de passeport sanitaire qui serait imposé finalement, ou en tout cas proposé aux citoyens que nous sommes. Quelle réaction cela vous inspire-t-il ?
Ben moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'établir des obligations nouvelles sous prétexte de santé publique. On a déjà un passeport, normalement, pour passer d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, il va falloir qu'on ait un passeport mondial pour pouvoir aller d'un pays à l'autre grâce à une inscription d'un vaccin ou, pour l'instant, d'un test PCR. Je trouve ça liberticide.
Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être légitime que d'un pays à l'autre, pour des raisons donc sanitaires évidentes, on puisse au moins contrôler, la santé, la positivité ou non au Covid d'un certain nombre de personnes qui se déplacent, notamment lorsqu'elles viennent de pays où la pandémie fait des ravages. Je pense à l'Inde en ce moment.
Et qu'on puisse, c'est exactement pareil que pour le confinement. Autrefois, on faisait des confinements ciblés dans des populations plus à risque, ou des personnes qui sont effectivement contaminées par le virus. Aujourd'hui, on fait un confinement généralisé. On obère la liberté de la plupart des citoyens. C'est pareil pour le pass sanitaire, qu'on soit plus regardant pour des gens qui viennent de pays où le virus circule davantage. Bah, qu'on remette des frontières à la porte des États, finalement, c'est une bonne nouvelle. Et on aurait dû faire ça depuis longtemps. Donc on ne va pas faire passer des gens qui sont susceptibles d'être positifs sans être forcément malades ou qui ne sont pas vaccinés, on va les empêcher de passer. Et à côté de ça, nos frontières sont des passoires et on fait passer des gens qui n'ont pas à être sur notre sol et qui peuvent perpétrer des attentats inattendus.
À propos d'attentats, Monseigneur, on a beaucoup bien entendu parler dans la presse et les médias de l'attentat terroriste islamiste de Rambouillet le 23 avril dernier. On se souvient de cette fonctionnaire de police qui a été assassinée. Cet attentat a entraîné des commentaires de toutes sortes, des controverses aussi sur, par exemple, le lien entre islam-islamisme, terrorisme et islamisme, insécurité, terrorisme, immigration. Est-ce que vous pensez que tout cela relève de l'amalgame, du fantasme, ou est-ce qu'il y a une réalité dans ce lien que l'on peut établir, en particulier entre terrorisme et immigration ?
C'est évident, puisque on sait statistiquement que 90 ou 99% des attentats terroristes perpétrés sur le sol français viennent de personnes qui sont sans doute déjà de notre société française pour la plupart, mais qui sont originaires de l'immigration. Donc il y a forcément un lien. Et on le voit bien, de toute façon, dans les faits hein, qui sont rapportés quotidiennement par les médias quand ils veulent bien rapporter ces faits en donnant tous les détails qui permettent d'identifier l'origine de ces terroristes. Donc je pense qu'il y a un véritable lien. Aujourd'hui d'ailleurs on dit, j'ai entendu ça dans une émission de radio, que le terrorisme est plus endogène que exogène, ça veut dire que c'est moins des gens qui viennent mandatés par les grandes organisations terroristes comme Daesh ou comme Al-Qaïda, donc de l'étranger pour perpétrer sur notre sol, quoique on sait bien que les périodes d'immigration massive ont permis quand même le passage de pas mal de terroristes sur notre sol, ça on le sait, les renseignements généraux sont parfaitement au courant de cela. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont déjà sur place et parfois même naturalisés dans des conditions, comme on le sait, de laxisme dans les années précédentes. Donc je pense que le lien est évident. Après, j'avoue que je suis toujours un petit peu sceptique sur le langage convenu sur le lien entre l'islam et l'islamisme, vous voyez ? On dit, ben voilà, l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est vrai que la plupart des musulmans de France sont en désir d'intégration, ils sont intégrés, peut-être même d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas si musulmans que cela. Il faut savoir que la plupart des musulmans ne fréquentent pas forcément la mosquée et en plus ne connaissent pas vraiment le Coran. Ils connaissent quelques codes, le ramadan, des choses comme ça, mais ils sont pour la plupart en désir d'intégration. Il n'empêche que les imams qui prêchent le djihad dans nos mosquées ont une influence forcément sur leurs congénères. Pourquoi ? Leurs co-religionnaires. Pourquoi ? Parce que l'islam, comme on le sait, est plus une loi qu'une religion. Une fois que l'islam est implanté, le problème n'est pas de savoir si on est converti ou pas converti, c'est d'imposer là où ils sont la loi de la charia, qui est absolument incompatible avec les lois de la République. J'ai lu une très bonne chronique qui a peut-être échappé à beaucoup de Rémi Brague, qui est un historien, un philosophe, un homme, une sommité intellectuelle de notre pays, qui a droit de citer quand même un peu partout, qui va même jusqu'à dire, et je pense que ce n'est pas complètement faux, il dit l'islamisme est un islam pressé et brouillon, et il ose dire l'islam est un islamisme patient, discret et méthodique. Ça veut dire que c'est dans l'ADN de l'islam, lorsqu'il est vraiment assumé, hein, je précise que la plupart des musulmans n'assument pas cet islam-là. Mais l'islam, quand il est vraiment assumé, eh bien, est une religion de conquête, qu'on le veuille ou non. Et c'est-à-dire de cette manière-là qu'il s'est toujours manifesté à travers l'histoire.
Quand le pape prône l'accueil des migrants, soutient le terrorisme, selon vous ?
Ah non, je ne dis pas ça. Je suis en train d'analyser la présence, le lien entre l'immigration et le terrorisme et l'islamisme. On ne peut pas le nier. Mais quand le pape appelle à l'accueil du migrant, il est bien évident qu'il n'est pas du tout dans ce registre. S'il était dans ce registre, il ne dit pas qu'il faut accueillir les terroristes. Il dit qu'il faut accueillir les migrants. Mais ça, c'est dans l'Évangile, ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir un certain discernement. Et d'ailleurs, lui-même, dans un certain nombre de discours qui ne sont pas cités habituellement par la presse, appelle à une certaine prudence dans l'accueil des immigrés dans une nation qui doit bien rester identifiée. Quand vous lisez l'encyclique Fratelli Tutti, hein, vous voyez qu'il est très clair sur l'importance de l'identité d'une nation et que ceux que l'on accueille doivent être intégrés, hein, il parle d'intégration lui-même d'ailleurs, hein, à cette identité.
Monseigneur Hayet, tout le monde a entendu parler d'une tribune retentissante, on peut le dire, d'officiers et de généraux, plusieurs centaines je crois, dans Valeurs Actuelles, le 21 avril dernier, qui dénonce, entre autres, le délitement du pays, avec des accents assez, peut-être, virils, qui ont suscité une inquiétude et des controverses. Est-ce que vous partagez leurs inquiétudes et qu'est-ce que vous pensez de leur prise d'opposition ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, au moins pour certains d'entre eux qui sont des officiers d'active, une sanction de la part du gouvernement ?
Alors, c'est sûr qu'on a, je crois que la question qui se pose, c'est surtout le buzz médiatique qui est lié autour de cette tribune, qui lui a d'ailleurs fait beaucoup de publicité, et on a tout à fait l'impression qu'il s'agit d'une méthode de diversion par rapport à l'attentat qui a été perpétué à Rambouillet. par un islamiste naturalisé après 10 ans d'irrégularité. C'est quand même ça qui est important. Et puis, comme on le sait aussi, cette polémique est partie de Jean-Luc Mélenchon. Et il faut savoir que si timidement quelques médias ont relevé dans la liste des signataires de cette tribune que tel ou tel avait pu avoir des accointances avec le Front National, on n'a pas précisé que le terroriste islamiste de Rambouillet suivait sur les réseaux sociaux Jean-Luc Mélenchon, qui tente à avaliser la thèse de l'islamo-gauchisme dont on a beaucoup parlé ces temps derniers. Donc vous voyez, il y a quand même des diversions. Mais en tout cas, il reste que lorsque vous avez des officiers d'actives ou pas d'actives qui osent émettre quand même un avis sur l'état de la société, le délitement de la société française, ils n'appellent pas d'ailleurs à l'insurrection. Ça n'a rien à voir avec un putsch, ni dans l'intention, ni dans les faits, mais qui alerte l'opinion publique, enfin qui alerte plus exactement le président de la République et ceux qui nous gouvernent, sur l'état de la société. Ils ne font que redire, par exemple, ce que disait le ministre de l'Intérieur socialiste, M. Collomb, lorsqu'il a quitté son poste, en disant que nous étions dans une société où on était côte à côte, mais que très vite, on serait face à face. Donc je ne crois pas qu'ils disent des choses tellement nouvelles, mais évidemment, ça dérange. L'islamo-gauchisme qui règne aujourd'hui et l'immigrationnisme qui tente à s'imposer dans les mentalités d'aujourd'hui.
Monseigneur Hayet, est-ce que la solution à toutes ces inquiétudes ne serait pas le rappel des valeurs de la République et de la laïcité, comme semble le penser d'ailleurs Madame Schiappa, puisque en tant que ministre déléguée de la citoyenneté, elle a lancé tout récemment, le 20 avril, les états généraux de la laïcité qui vont durer 3 mois.
Enfin, c'est encore une opération comme. On veut faire de la laïcité une religion, alors que la laïcité, c'est la distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, qui est né d'ailleurs dans l'Évangile et qui ne peut se comprendre qu'en contexte chrétien, où on ne fait pas de confusion entre César et Dieu. Hein, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Or, on se trouve face à une religion musulmane qui ne connaît pas ce principe de laïcité, c'est-à-dire ce principe de la séparation, en tout cas de la distinction, entre le religieux et le politique, et qui, quand il s'installe quelquefois, quand il est assumé, encore une fois, et je rappelle que la plupart des musulmans n'assument pas l'islam, mais quand il est assumé, eh bien, l'islam conduit à établir là où ils sont, plus qu'une religion, donc plus qu'un culte, un mode de vie en société, qui est radicalement opposé à une laïcité qui considère que la religion, finalement, doit être évacuée du contexte de la vie sociale. Donc tant qu'on fera de la laïcité une religion qui finira par effacer le fait religieux dans la société, on ne fera que le lit, on ne fera que promouvoir un islamisme intégriste et fondamentaliste.
Nous nous retrouvons dans un instant, Monseigneur Hayet.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayet, au mois de mars, vous avez eu l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, c'était du 23 au 26 mars, vous avez abordé plusieurs sujets avec les évêques. On n'a pas le temps ici de revenir sur tous les sujets. Les évêques ont envoyé une lettre à tous les prêtres et ainsi qu'à tous les fidèles. Pourquoi ?
Je crois que c'était pour rendre compte auprès des fidèles, et ça me semble très important, de tout ce que l'Église en France a fait depuis l'an 2000 pour lutter contre la pédophilie. Et vous vous rappelez qu'en l'an 2000 déjà, nous avons publié, enfin les évêques de France, moi j'étais pas encore évêque à ce moment-là, mais les évêques de France ont publié un petit livret sur les moyens de prévention contre la pédophilie et les moyens de lutter contre la pédophilie dans l'Église, qui reste un vrai scandale. Hein. C'est évident et on sait bien que ce scandale a du retentissement dans la société et dans l'Église. Et donc c'était important, alors que nous avons demandé à une commission indépendante que nous avons créée il y a maintenant quasiment 3 ans, qui est chargé essentiellement d'analyser la manière dont l'Église, et donc les évêques en particulier, ont traité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 1945, les cas de pédophilie dans l'Église, et voir comment il y a pu y avoir des évolutions, comment il peut y avoir eu, c'est vrai, une loi de l'omerta pendant un certain temps, il y a un certain silence, mais qui était celui de la société tout entière, face à un phénomène que l'on ne connaissait pas. Alors qu'on a demandé à cette commission indépendante de nous fournir un rapport qui sera proposé seulement en octobre prochain, il était important que les évêques informent les fidèles et sur ce qui a été fait, et sur la conscience que nous avons prise progressivement du traumatisme créé chez les victimes, que nous avons aussi associé à ces décisions que nous avons prises, de ce qu'on appelle la pédophilie.
Il y aura un secours financier qui sera proposé aux victimes, c'est ça ?
Alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'on a d'abord pris conscience du traumatisme que ça crée chez les victimes, et je suis bien placé pour le savoir comme évêque, parce que je reçois et j'accompagne des victimes qui ont été agressées sexuellement par des prêtres ou des religieux lorsqu'ils étaient enfants. Et c'est bien là-dessus que s'est focalisée la lettre des évêques de France aux catholiques pour lutter contre la pédophilie. Et on a donc pris un certain nombre de décisions. Ça ne veut pas dire qu'on n'en avait pas déjà prise auparavant. Et parmi ces mesures, c'est vrai que nous avons opté pour allouer une somme forfaitaire en vue de la reconstruction de la victime, à partir du moment où elle est connue de l'évêque, qui sera déterminée par une instance indépendante que nous allons créer à cet effet, et qui permettra d'aider la personne qui le demandera à se reconstruire, par exemple, à travers une psychothérapie, etc., qu'on va donc aider financièrement, mais qui ne pourra pas être au-delà de nos possibilités. Et il est évident que nous n'allons pas prendre dans les sources de revenus des diocèses cette somme. On va donc normalement créer un fonds de dotation qui sera abondé librement, donc sur la base du volontariat, par les évêques, par les prêtres, par les fidèles. Et il faudra évidemment que nous sensibilisions les fidèles à la possibilité d'abonder ce fonds de dotation, en disant que c'est aussi une loi, j'allais dire, de solidarité au sein de l'Église, qui vient même à la nature théologique de l'Église, qui est le corps du Christ, où nous sommes les membres les uns des autres, et donc où nous sommes invités à porter les fardeaux les uns des autres. Donc à partir du moment où des victimes sont des membres de l'Église à part entière, c'est normal que tous nous nous sentions responsables d'aider à leur reconstruction, même si nous ne sommes pas fautifs en tant que tels, et qu'évidemment seul celui qui a fauté doit répondre de ses actes devant la justice.
Combien y a-t-il de victimes de pédophilie dans notre diocèse ?
C'est difficile de le déterminer. De victimes connues, il y en a une douzaine peut-être de victimes recensées à travers les archives que nous avons conservées. Lorsque effectivement il y a eu des cas connus et qui ont même été jugés, et puis les autres qui ont été portés à notre connaissance grâce à la cellule d'accueil des victimes que nous avons mise en place depuis quelques années.
Monseigneur Hayet, récemment, au mois de mars, je crois, la Congrégation pour la doctrine de la foi a répondu à une question qui lui était posée en rappelant que la bénédiction d'union homosexuelle ne peut être considérée comme licite. Mais à la suite de cette note de la Congrégation pour la doctrine de la foi, on a constaté qu'elle suscitait beaucoup d'incompréhension de la part de nombreux fidèles qui craignent que ce ne soit très offensant ou blessant pour des personnes homosexuelles ou qui ont des tendances homosexuelles. Il y a même des prêtres, des évêques, des théologiens qui ont exprimé leur désaccord en considérant que la doctrine de l'Église devrait évoluer sur cette question. Qu'en pensez-vous ?
Alors c'est évident que la question est posée à la Congrégation de la doctrine de la foi, et comme il se doit, la Congrégation répond par oui ou par non. Et ensuite, il y a un argumentaire qui permet de fonder cette réponse positive ou négative. Et ensuite, c'est présenté au Saint-Père pour publication. Alors, d'habitude, la formule convenue, c'est après avoir entendu la congrégation, le pape ordonne la publication. Là, il a consenti à la publication. Bon, on joue sur les mots. Quand on dit que le consentement infirme la formule habituelle, en disant que le consentement est quelque chose de très fragile, non, puisque vous savez que c'est le consentement qui fonde, par exemple, le mariage entre un homme et une femme, et qui le rend indissoluble. Donc c'est dire que le consentement est aussi une... S'il n'avait pas voulu que cette note soit publiée, eh bien, il l'aurait dit, et elle n'aurait pas été publiée. Donc il ne faut pas non plus jouer sur les mots. Après, quand on lit bien le texte, il s'agit de rappeler l'enseignement de l'Église, qui appartient à la tradition bimillénaire de l'Église et qui est fondée dans l'Écriture sainte. Il s'agit simplement de porter un jugement sur des actes homosexuels et d'éviter de confondre le sacrement de mariage entre un homme et une femme, tel qu'il trouve sa justification dans la Genèse et dans le récit de la création, et qui a été ensuite commenté par Jésus lui-même dans ce sens, lorsqu'il est interrogé par les pharisiens au chapitre 19 de saint Matthieu, qui est donc l'exégète de ce passage de la Genèse, pourtant des milliers d'années après, si je puis dire, qui rappelle simplement qu'on ne peut pas confondre l'union de deux personnes de même sexe avec le mariage, qui doit être sanctifié par un sacrement particulier institué par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Et on insiste beaucoup pour montrer qu'il ne s'agit pas de discrimination, il ne s'agit pas de juger les personnes, il ne s'agit pas de les discriminer. Au contraire, elles sont respectables, et l'Église l'a rappelé ô combien, y compris dans le catéchisme de l'Église catholique. Mais l'Église ne peut pas dire autre chose. Si vous voulez, bénir deux personnes de même sexe qui ont un projet de vie commune, n'appartient pas à l'Église, qui n'est pas maître de la vérité sur l'homme et sur le mariage et sur la famille, et qu'elle reçoit de la révélation.
Tous les évêques ne sont pas sur la même ligne que vous. Il y en a qui ont regretté quand même cette note. On apprend ce week-end qu'il y a 700 fidèles de Belgique qui veulent quitter l'Église. Ça suscite quand même un débat dans l'Église.
Oui, mais qu'importe, lorsque Jésus a présenté aux Juifs de la synagogue de Capharnaüm le mystère de l'Eucharistie, qui est un mystère quand même énorme, où il est en train de leur dire que c'était sa chair donnée pour la vie du monde qui allait remplacer tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance, auxquels évidemment les Juifs tenaient, puisque cela avait été révélé aussi par le Seigneur à travers Moïse, eh bien, tout le monde n'a pas voulu l'écouter, et la plupart des disciples qui étaient autour de lui ont décidé de ne plus aller avec lui. Et Jésus n'a pas essayé d'infirmer son langage, il s'est même tourné vers ses apôtres, qui restaient une petite poignée, en leur disant « vous voulez partir vous aussi ». Donc je pense que la vérité ne nous appartient pas. L'enseignement de l'Église, jusqu'à plus ample informé, nous rappelle un certain nombre de choses. Le catéchisme de l'Église catholique demeure le texte de référence pour l'enseignement de la foi dans l'Église, qui est principe de son unité. Je ne suis plus en communion avec l'Église dès lors que je remets en cause des points importants de la vérité qui est transmise par l'Église depuis 2000 ans. Donc j'estime que c'est pas un objet de débat. La foi n'est pas un objet de débat.
Il vaut mieux qu'ils partent de l'Église.
Je ne dis pas qu'il vaut mieux qu'ils partent de l'Église. Ça veut dire simplement que les pasteurs sont appelés à leur expliquer les choses avec la pédagogie qui convient. Mais après, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce qu'il valait mieux que les Juifs n'écoutent pas le Christ et le quittent ? Jésus n'est pas allé les rechercher en leur disant « Attendez, je vais vous expliquer les choses différemment ». Il s'est tourné vers ses apôtres et il leur a dit « Alors et vous ? Vous voulez partir vous aussi ? Chacun est libre ». Personne n'est obligé d'appartenir à l'Église et d'adhérer à la foi de l'Église.
Monseigneur, si on peut comprendre, bien entendu, je pense que beaucoup le comprennent, que l'Église ne peut pas marier, donc accepter que le sacrement du mariage puisse concerner deux personnes de même sexe, quel est le problème posé par une bénédiction d'union homosexuelle, c'est-à-dire par exemple de deux hommes ou deux femmes qui se sont mariés civilement ?
Et c'est la confusion avec le mariage, précisément. Vous savez très bien que des personnes qui vivent dans des situations un peu irrégulières viennent régulièrement demander à l'Église une bénédiction. La bénédiction fait partie d'ailleurs du sacrement de mariage. Bénir l'union des deux personnes, c'est reconnaître que deux personnes de même sexe peuvent vivre comme s'ils étaient mariés. Non, et ça ne nie pas la possibilité de bénir chaque personne individuellement, parce que toute personne peut être objet de la bénédiction de Dieu, et personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Quand l'Église donne des balises, elle est intransigeante sur, comment dire, les exigences de l'Évangile, hein, qui nous sont données par Jésus, en particulier dans le sermon sur la montagne, qui est ô combien exigeant, par rapport même à la loi ancienne, mais elle est pleine de miséricorde pour les personnes. Il ne faut pas confondre, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, on est dans un monde qui est extrêmement laxiste, et on voudrait que ce laxisme existe aussi dans l'Église. On peut faire ce qu'on veut dans le monde d'aujourd'hui. Personne n'a à nous donner une norme, c'est à nous de donner nos propres normes. Mais pourtant, on est impitoyable dès lors qu'on prend les gens dans certains critères. Aujourd'hui, il n'y a pas de pitié pour le coupable dans le monde d'aujourd'hui. L'Église, c'est différent. On a des exigences qui viennent de l'Évangile, ce n'est pas à nous de les déterminer, ce n'est pas moi, pauvre évêque, à déterminer ce que sont les exigences morales que Jésus a données dans l'Évangile, mais à côté de ça, on est plein de miséricorde. Bénir une homosexuelle, ce n'est pas faire preuve de miséricorde, puisque c'est conforter les gens dans une vérité qui n'est pas la vérité du dessein de Dieu sur l'homme et la femme.
70 diocèses français ont entrepris une démarche le 24 avril dernier intitulée « Terre d'espérance, église en monde rural ». Est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que notre diocèse va y participer?
Qui devait y participer, puisque comme vous savez, ça a été annulé à cause de la pandémie. Et ça a été reprogrammé, mais pour l'instant, on n'a pas de date très précise. Et donc, nous sommes en effet engagés dans cette démarche Terre d'Espérance, et c'est d'ailleurs le vicaire général qui était chargé de constituer une équipe avec des agriculteurs, des chrétiens de notre diocèse qui auraient dû y participer, mais comme on le sait, pour l'instant ça a été annulé, sine die.
Quel est l'objectif de cette démarche?
La démarche consiste à essayer de replacer l'Église dans ce monde rural qui est de plus en plus désertifié, mais aussi où la déchristianisation est peut-être la plus galopante. Et donc c'est essayer d'entreprendre une démarche d'annonce de l'Évangile, de présence de l'Église d'abord, et d'annonce de l'Évangile dans le monde rural.
Monseigneur Ayet, nous enregistrons cette émission dans les nouveaux studios de Radio La Pourdie, puisque aussi bien la radio que le service de communication diocésaine ont tout récemment, il y a quelques jours, déménagé, passant du 3 au 9 rue des Prébendés. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'objet de cette décision qui a été prise, que vous avez prise avec certainement le Conseil des affaires économiques concernant le déménagement en question?
Donc c'est sûr que ça a été un arrachement, je pense, pour les membres du service de communication qui s'étaient bien installés, évidemment, surtout au Pays Basque, on dit que la maison, c'est plus que des murs, c'est un lieu où une communauté se constitue. Et donc c'est vrai que je comprends bien que depuis 10 ans, le 3 rue des Prébendés était un lieu de vie pour la communication qui était tout à fait adapté. Bon, nous avons été obligés, après moult analyses, de nous rendre compte que nous avions aussi ce bâtiment du 9 rue des Prébendés qui était vide d'activité. Et qui était davantage, dont nous avions davantage besoin de conserver ou d'entretenir le patrimoine, si vous voulez, diocésain. En plus, il est tout à fait lié techniquement avec le 7 rue des Prébendés, où nous avons des appartements qui sont encore habités par des prêtres.
Il est encore plus près de l'évêché.
Et en plus, il sera encore plus près de l'évêché. Bon, ça c'est vrai, mais il faudra toujours traverser la rue pour aller à l'évêché. Et donc, il nous a semblé que s'il fallait réaliser un de ces immeubles, ben, il valait mieux sacrifier le 3 rue des Prébendés que le 9. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au service de communication et à la radio ce sacrifice de passer du 3 au 9.
Vous parlez de sacrifice, ça veut dire que va devenir le numéro 3 de l'arc des Prébendés?
Ben, il est fort probable que nous allons le vendre. Nous allons le vendre de manière à aider aussi à la situation financière du diocèse qui forcément n'est pas mirobolante comme beaucoup de diocèses aujourd'hui.
Nous nous retrouvons dans un instant.
Radio La Pourdie Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marcaillé. Nous allons maintenant, dans cette dernière partie, parler de la vie du diocèse. Alors, la nouveauté, un peu, cette année, c'est quand même les CM1 qui sont confirmés, alors qu'avant, la confirmation avait lieu en 5e.
Voilà, alors on avait commencé déjà l'an dernier, dans des paroisses un petit peu pilotes, mais comme c'était reporté à cause du confinement, on a plutôt confirmé des CM2, en fait. Hein. Mais on va commencer, c'est vrai, cette année, au mois de mai et juin, à confirmer des enfants de CM1. Ben, comme vous le savez, c'est tout un travail, toute une enquête que nous avons faite auprès des prêtres, des curés, des catéchistes, des responsables, des animateurs d'aumônerie, pour remettre au goût du jour l'ordre, j'allais dire, théologique et traditionnel des sacrements d'initiation chrétienne, c'est-à-dire baptême, confirmation, première communion. Avec cette petite entorse qui est liée à Saint Pie X, qui pensait qu'un enfant ne devait pas attendre trop longtemps, lorsqu'il est évidemment éduqué chrétiennement dans sa famille depuis son plus tendre âge, le priver longtemps de ce pain spirituel qu'est l'Eucharistie, donc qui avait institué dans l'Église, on le sait, la première communion précoce. Mais c'est vrai que la plupart des enfants qui viennent au catéchisme et qui sont inscrits au catéchisme, hélas, dans le contexte d'aujourd'hui, n'ont pas grandi dans des familles chrétiennes, n'ont pas beaucoup entendu parler de Jésus dans leur famille. Je voyais des enfants de la confirmation que j'ai confirmé à Naï il y a quelques jours. Un enfant qui disait « Dans ma famille, on ne parle pas beaucoup de Jésus, donc je suis content d'en parler au catéchisme. » Donc, vous voyez, et ça veut dire qu'ils découvrent la religion chrétienne, bien souvent, quand ils arrivent en CE2, pour la première fois au catéchisme de la paroisse, quand les parents veulent bien les y inscrire, et on sait qu'il y a un nombre moins important d'enfants qui sont inscrits aujourd'hui au catéchisme, même chez nous, qui sommes dans un pays privilégié de vieille chrétienté. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de confirmer les enfants en CM1, leur donner cette force de l'Esprit Saint qui leur permettra, dans la mesure évidemment où ils ont encore à grandir dans la foi, de devenir des adultes dans la foi, la confirmation, comme son nom l'indique, venant confirmer le baptême, hein, par un don de l'Esprit Saint, qui est le même Esprit Saint qu'ils ont reçu au baptême, mais pour faire d'eux des témoins, petit à petit, hein, de Jésus, et de retarder la première communion en CM2, hein, en prenant comme prétexte, si je puis dire, que l'Eucharistie est vraiment le sommet de l'initiation chrétienne, et je ne suis pas sûr que les enfants, ce sera peut-être vrai aussi un petit peu en CM2, mais soient tout à fait disposés lorsqu'ils font leur première communion, encore une fois dans un contexte familial qui n'est pas porteur, et social ô combien encore moins porteur, eh bien qui ne sont pas tout à fait aptes à une vraie vie eucharistique. Et donc on se rend compte bien souvent que la première communion est souvent la dernière, avant longtemps, et qui n'ont pas tous les moyens de vivre pleinement une vie eucharistique. C'est pour ça que je préfère qu'on mette le paquet sur la confirmation dans le jeune âge. D'ailleurs, ça fait partie des textes officiels de l'Église, encore aujourd'hui. Hein, si vous lisez le catéchisme catholique ou le code droit canonique, on dit que l'âge de la confirmation, c'est l'âge de raison. Hein, et qui permet aussi d'éviter cette difficulté que nous connaissons tous et dont nous pâtissons, de voir que quand vous allez avoir des jeunes qui se présentent devant l'Église pour se préparer au mariage, eh bien, la plupart du temps, ils ne sont pas confirmés. Or, la confirmation est un sacrement d'initiation chrétienne qui n'est pas facultatif et qui est nécessaire pour prendre pleinement sa place dans l'Église, pour prendre pleinement ses responsabilités, qui passe par une vraie vie eucharistique adulte et mature. On est confirmé, on est baptisé confirmé pour participer pleinement à l'Eucharistie.
Et après, j'ai envie de vous demander, parce que finalement, avant, la confirmation se faisait en 5e, donc pour certains, en tout cas, on pouvait garder le lien avec ces jeunes et ces familles jusqu'en 5e. Aujourd'hui, finalement, c'est la profession de foi, si elle est célébrée en 6e, qui permet ce lien. Ça fait un an de moins. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre certaines familles, de perdre certains jeunes enfants?
Alors, deux manières de répondre. La première, c'est que les sacrements ne sont pas une carotte. Hein, on ne peut pas instrumentaliser les sacrements au profit d'une pastorale pour maintenir les enfants dans notre giron. Je pense que l'Esprit Saint reçu tôt permet aussi peut-être une continuité dans la foi, quand elle est évidemment accompagnée. Et c'est pourquoi je pense qu'avoir reçu l'Esprit Saint en CM1 et avoir encore 2 années de catéchisme jusqu'à la profession de foi, qui reste un événement social et familial important dans notre diocèse, et qui est quand même l'entrée dans l'âge de l'adolescence, et finalement se préparer à entrer un jour dans l'âge adulte. C'est une césure importante, même si elle se fait parfois, hélas, de manière plus précoce, étant l'accélération des rythmes de la croissance aujourd'hui, qui nous sont imposés par la société dans laquelle nous sommes. Mais je pense que recevoir l'Esprit Saint plus tôt peut permettre de continuer plus longtemps. Et puis après, la deuxième élément de réponse, c'est que j'ai toujours lié cette réforme de l'ordre des sacrements, que je n'impose pas d'ailleurs comme un oukase obligatoire, ça veut dire que ça se mettra peu à peu en place, mais je note que beaucoup de paroisses y viennent, et donc je m'en réjouis, et les autres y viendront certainement en leur temps, mais il faut évidemment que ce soit accompagné d'une vraie pastorale de l'adolescence. Et c'est là où on doit encore beaucoup travailler pour permettre de garder, en effet, les enfants, pas pour les garder, mais pour leur permettre de grandir dans leur foi.
Monseigneur Hayet, dans la foulée, en quelque sorte, de la journée mondiale de prière pour les vocations, le 25 avril dernier, il y a eu, le week-end dernier, samedi 1er mai, une journée porte ouverte au séminaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et aussi, bien sûr, nous parler des ordinations de diacres en vue du sacerdoce ou des ordinations presbytérales qui sont prévues et qui s'annoncent?
Alors, cette idée de portes ouvertes du séminaire me semble très importante et très pertinente pour donner une plus grande visibilité à la vocation sacerdotale. On sait que la relève des prêtres est toujours une question difficile dans nos diocèses, même si nous avons bénéficié d'un apport de séminaristes, grâce d'ailleurs à l'ouverture du séminaire, qui n'ont pas forcément grandi chez nous, mais qui sont désireux d'épouser la culture locale et l'Église locale pour la servir. Je pense que c'est important dans le diocèse de donner une plus grande visibilité à cette vocation et à la formation qui est proposée aux séminaristes, à travers la visite du séminaire, la rencontre des séminaristes, le témoignage des séminaristes, quelques vidéos aussi qu'ils avaient préparées pour que ceux qui visitent puissent prendre la mesure de ce qu'ils vivent, et de manière donc précisément à prendre davantage conscience et de l'importance de cette vocation, et peut-être de les motiver encore plus pour prier pour les vocations sacerdotales, car c'est le moyen par excellence que Jésus lui-même dans l'Évangile nous a donné pour obtenir des vocations dans l'Église. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, comme dit Jésus dans l'Évangile. Voilà, et donc je pense que ça a été un franc succès. Ce sont les séminaristes qui ont préparé de A jusqu'à Z cette journée, c'était leur journée. Et moi, je n'ai pas pu y participer parce que je faisais des confirmations ce même jour-là de l'autre côté du diocèse. Mais je sais par le recteur que c'était un franc succès, qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui sont venus et que les séminaristes ont donné un beau témoignage.
Combien de nouveaux diacres cette année?
Alors cette année, j'ordonnerai 4 diacres. D'abord 3 le 13 mai au jour de l'Ascension, donc à 15h. À la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, 2 pour le diocèse, Louis Le Grel et Fabien Damet, qui ont fait toute leur formation, évidemment, au séminaire, et 1 pour le diocèse d'Haïphong, qui nous avait été confié par l'évêque d'Haïphong, qui est devenu d'ailleurs depuis l'archevêque d'Hanoï, mais qui reste administrateur apostolique d'Haïphong, au Vietnam. C'est Jean-Baptiste Buis, qui sera ordonné, qui a fait toute sa formation au séminaire aussi des 5 heures de Jésus et de Marie, qui sera ordonné avec les 2 autres dans la cathédrale de Bayonne pour le diocèse d'Haïphong. Et puis enfin, le 3 juillet, j'ordonnerai un diacre aussi pour le diocèse, mais qui est du séminaire Redemptoris Mater, donc issu du chemin néocatéchuménal. Il s'agit donc de Manolo Borrero.
Peut-on déjà annoncer des ordinations sacerdotale,
bien sûr,
fin du mois de juin.
Bien sûr, je l'ai fait déjà le jour de la messe chrismale, comme chaque année. Et donc, nous aurons 2 diacres qui sont ordonnés prêtres pour le service du diocèse. Donc, Alexandre Blodeau, qui est en stage diaconal dans les paroisses du pays de Naï, et Joseph Nduen, qui est en stage diaconal à la maison Samuel et à la paroisse de la Trinité de Laurent.
Vous poursuivez vos catéchèses sur Radio Lapourdi et sur le site du diocèse en vidéo. Vous avez proposé plus de 100 catéchèses consacrées à la doctrine sociale de l'Église. Est-ce qu'il y aura une suite ?
Alors en effet, il faut faire une suite, hein, qui est certainement très attendue. Je pense que je vais commencer par faire quelques catéchèses sur la lettre du pape François consacrée à l'année Saint-Joseph, avec un cœur de père. Et ensuite, j'entamerai, je pense, une série de catéchèses sur la liturgie, et plus particulièrement sur la liturgie de l'Eucharistie, pour préparer la publication du nouveau missel pour l'Avent prochain. Hein, comme vous savez, la traduction du nouveau missel a été enfin finalisée en français et a été promulguée. Et donc, elle sera publiée pour la prochaine année liturgique.
En basque, le missel va arriver aussi, le nouveau missel ?
Voilà, en basque, la traduction a été plus rapidement bouclée que la traduction française. On est plus rapide chez les basques. Mais il faut dire que ça concerne un petit peu plus de monde pour la liturgie en français, puisque c'est tous les pays francophones. Et donc, il a fallu faire des allées et venues entre conférences épiscopales. Donc, ça a été un petit peu plus long.
Au mois de septembre, chaque année, c'est le rendez-vous incontournable de la rentrée, le pèlerinage diocésain, parce que vous invitez déjà, d'ores et déjà tout le monde à y participer. Ça sera du 17 au 20 septembre avec la journée diocésaine le dimanche 19 septembre.
Alors en tout cas, j'espère bien que nous pourrons maintenir ce calendrier. En tout cas, c'est la volonté de l'HBB qui s'est déjà mise en ordre de marche et qui compte bien emmener peut-être moins de, évidemment, étant les limites sanitaires qui sont encore évidemment en vigueur, mais qui emmènera sans doute moins de malades, mais qui va quand même emmener nos frères et sœurs malades et accompagnés par l'HBB avec une journée évidemment diocésaine le dimanche comme traditionnellement. Nous sommes en tout cas tournés vers cet heureux événement.
Le mois de mai, le mois de juin, c'est aussi la période des nominations des prêtres dans les paroisses. Pour l'instant, rien n'a filtré, donc les secrets sont bien gardés. Est-ce qu'il y a beaucoup de nominations prévues cette année ?
Il y aura forcément des changements hein, et des modifications importantes qui se préparent de manière très sereine, soit parce qu'il y a des prêtres qui arrivent à l'âge de la retraite et qui ne désirent pas continuer un ministère proprement curial, soit parce qu'il y a un jeu de chaises musicales qui peut aussi avoir lieu. En tout cas, les choses se préparent sereinement, elles ne sont pas encore complètement abouties, parce qu'il faut évidemment que ça passe par un vrai dialogue avec les prêtres, hein, et puis le discernement des priorités, des nécessités qui se font jour. Comme on le sait, la situation ne peut pas être très, 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 très facile, sachant qu'il y a beaucoup de prêtres qui vieillissent, hein, comme nous tous d'ailleurs, mais qui arrivent à des âges où on ne peut plus assumer des responsabilités aussi importantes que curé de grosses paroisses. Et c'est pourquoi il faut encore jongler. Mais il y aura très prochainement des nouvelles sur cette question.
Y a-t-il par ailleurs, Monseigneur, d'autres projets pour la rentrée dont vous souhaitez dire quelques mots ou sinon quelques mots de conclusion
tout simplement? Moi, je dirais juste comme projet important, c'est le congrès mission. Il y a un congrès mission, comme vous le savez, qui se déroule à Paris le premier week-end d'octobre, enfin fin septembre, début octobre, depuis quelques années, qui rassemble des acteurs de l'évangélisation et des fidèles et des prêtres de la France entière, et qui est comme une espèce de vitrine de toutes sortes d'initiatives missionnaires qui se font jour dans les diocèses et dans les paroisses. Et cette année, pour faciliter les choses, peut-être aussi pour éviter un grand méga rassemblement qui a lieu, comme on dit chaque année, à Paris, a décidé de délocaliser pour la première fois. Et donc, il y aura un congrès mission qui se tiendra aux mêmes dates, avec le même programme partout, hein, à Toulouse. Et donc, nous allons nous tourner vers Toulouse. Et très prochainement, avec l'Observatoire de la Mission que nous avons relancé, mais qui évidemment est un peu en stand-by dans ces temps de crise sanitaire, sera chargé d'être les ambassadeurs de ce congrès mission auprès des fidèles et des curés et des prêtres pour le prochain congrès mission qui aura lieu à Toulouse.
Le parcours Cléophas sera également partie prenante dans ce congrès ?
Le parcours Cléophas sera partie prenante dans le sens où ce sera leur première activité de l'année, sachant que la crise sanitaire a empêché quand même cette deuxième année du parcours Cléophas, qui est censé être plus en sortie missionnaire, de se dérouler dans de bonnes conditions. Et les candidats ont demandé à ce qu'il puisse y avoir une année nouvelle. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle année pour cette promotion qui aurait dû s'achever cette année. Et on ne recommencera un nouveau cycle que dans un an.
Un grand merci à vous, Mgr Marc Caillé. Merci à Olivier Drapé. Et merci à tous les auditeurs de Radio Lapourdi et de Radio Présence. À bientôt.